Bonjour, je suis Céline Kallmann, vous écoutez le titre à la une. Fumée blanche, à gauche, un accord a été trouvé par le Nouveau Front Populaire qui a dévoilé son programme ce 14 juin. Un objectif principal, faire front le 30 juin et le 7 juillet prochain contre le Rassemblement National. À droite, on se cherche, on se déchire, on s'éparpille. La majorité, elle, semble isolée. Mais à gauche, un accord a été trouvé. Alchimie affichée à la Maison de la Chimie à Paris. Nous avons réussi. Une page de l'histoire de France s'écrit avec le Nouveau Front Populaire. Voilà les mots du socialiste Olivier Faure. Jean-Luc Mélenchon, lui, salue un événement politique considérable en France.
Défense.
Je vous coupe un instant, priorité au direct. On voit à l'écran les partisans de cette union. Marine Tondelier, la patronne des écologistes. Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Derrière, notamment, Yannick Jadot, ancien candidat écologiste à l'élection présidentielle. Clémence Guettet, Cyrielle Chatelain. Voilà, donc ceux-là même qui viennent de signer cet accord. Merci. À gauche.
Merci beaucoup.
Et qui donc applaudissent.
Il est 20h49, ce 13 juin 2024, quand les représentants de la gauche s'affichent tout sourire devant les caméras et les micros. L'acte de naissance est publié par communiqué à 20h18. Au même moment, l'ancien président François Hollande est invité sur le plateau de TF1. Il est interrogé par Gilles Boulot. La réalité, dit François Hollande, c'est que depuis la Libération, jamais l'extrême droite n'a été aussi proche d'accéder au pouvoir.
Donc c'est à la gauche de faire son devoir. Son devoir, c'est de faire l'union. L'union, c'est-à-dire de pouvoir rassembler toutes les familles politiques de la gauche, qui ont des divergences, c'est bien clair, mais qui font preuve de responsabilité, c'est-à-dire de mettre toutes les conditions pour que l'extrême droite ne puisse pas venir au pouvoir.
François Hollande, favorable donc à cet accord de la gauche. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste sur BFM TV, réagit lui aussi.
On a surtout mis toutes nos chances de notre côté. On a surtout réussi à rassembler dans un programme de gouvernement toutes les mesures dont beaucoup d'entre elles sont très attendues par les Français.
Réaction également de Clémentine Autain, députée sortante de la France Insoumise.
Je suis très 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 heureuse et je pense que à l'irresponsabilité du président de la République Emmanuel Macron, eh bien, nous voyons là qu'il y a la responsabilité des forces de gauche et écologistes de sceller un accord historique qui nous permet de prétendre gagner ces élections dans 2 semaines.
Ce vendredi 14 juin, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui avait mené la liste commune de son parti Place Publique et du Parti Socialiste aux élections européennes, réagit lui aussi. « La seule chose qui importe à mes yeux, dit-il, c'est que le Rassemblement National ne gagne pas ces élections législatives et ne gouverne pas ce pays. La seule manière de faire, c'est qu'il y ait une union de la gauche. » Raphaël Glucksmann, qui reconnaît que ça a été dur, que cet accord de la gauche a été un rapport de force idéologique. Au soir de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron, François Ruffin, député de la France Insoumise de la Somme, lance un appel au parti de gauche.
Je le dis dans ce moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie, il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement National. Et j'en appelle dès ce soir Marine Tondelier, Olivier Faure, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard, pour qu'on se range derrière une barrière commune, une barrière Front Populaire.
Une barrière Front Populaire. Le choix du vocabulaire est lancé et va s'affiner au fil des jours pour devenir le nouveau Front Populaire. Dénomination qui fait référence évidemment à la coalition des gauches datant de 1936. Le journal Le Monde revient sur les coulisses de cet accord. le principe des discussions à quatre s'impose rapidement, prenant de court les socialistes qui sortent d'une campagne fratricide et violente avec les insoumis. Mais ce lundi 10 juin 2024, la gauche, qui paraissait jusqu'il y a peu irréconciliable, semble avoir tout oublié. Le chef de file du PS, Olivier Faure, accepte donc de s'asseoir à une table en face des insoumis. Le journal Le Monde raconte. Sous l'œil incrédule d'écologistes qui ne l'avaient jamais vu dans cet état, le premier secrétaire se met en colère. Il dénonce les débordements et les dérapages insupportables qui ont émaillé la campagne. C'était grave, il y a eu un silence total, relate un participant. Sur BFM TV, l'éditorialiste politique Mathieu Croissando fait un arrêt sur image.
On a donc Fabien Roussel aux côtés de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, dont les militants avaient fait imprimer pour la fête de Lima des t-shirts « Fabien Roussel n'est pas un camarade », dont des leaders insoumis ont qualifié Fabien Roussel de « Doriot », la figure du collaborationniste. On a Marine Tondelier, la patronne des écolos, qui avait été accusée par le même Manuel Bompard d'enterrer la NUPES quand elle voulait présenter une liste en solo aux européennes. Bon, à l'époque, elle pensait faire 15%, maintenant qu'elle en a fait 5, elle a mis un peu d'eau dans son vin. Et puis, vous avez Olivier Faure, qui était un peu dans la pénombre tout à l'heure, tout un symbole. En tout cas, il y a un absent, vous avez remarqué ?
Raphaël Glucksmann.
Raphaël Glucksmann, qui lors du débat sur BFM TV avec les têtes de liste des européennes, s'était violemment accroché avec Manon Aubry de la France Insoumise. C'était le 27 mai dernier.
Je crois, puisque François Hollande va soutenir votre liste cette
Raphaël
semaine.
Glucksmann.
Oui, je sais, mais moi, je n'ai pas François Hollande qui me soutient et je crois qu'on a besoin de clarté. Et je le dis à des millions d'électeurs de gauche, on ne lutte pas contre l'extrême droite en remettant en cause l'austérité, en acceptant le marché européen de l'énergie qui
mais
fait exploser
là,
nos factures.
Là, vous ne luttez pas contre l'extrême droite, vous faites de moi
non,
votre type principal.
Non.
C'est le cas depuis 6 mois.
Raphaël,
vous avez l'extrême
Raphaël
droite à 40%,
je dis,
Manon Aubry. Allez, concentrez-vous sur l'extrême droite. Lâchez-moi un peu les baskets, ça fait 6 mois. Là.
Bref, ce n'était pas le grand amour ces dernières semaines. Des désaccords qui ont d'ailleurs explosé pendant la campagne des européennes, avec comme ligne de fracture l'antisémitisme, les attentats du 7 octobre et l'offensive israélienne sur Gaza. Les idées se sont affrontées pour finalement parvenir à cet accord, à ce nouveau Front populaire. Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste.
Bah vous savez, quand on fait ce type d'accord dans un temps si contraint, on a commencé lundi, nous sommes vendredi, j'en perds un peu mes journées, on a travaillé 24 heures sur 24, voilà, on avait besoin d'avancer, on a travaillé à la fois sur un accord de circonscription, 577 circonscriptions à se répartir, avec un objectif que moi j'ai toujours eu en tête et que nous avons mis beaucoup dans nos discussions, c'est quelle est la force politique la plus efficace pour battre l'extrême droite territoire par territoire.
Donc vous avez pris...
Ce vendredi 14 juin, le nouveau Front populaire a donc dévoilé son programme. Un programme, je cite, « de rupture lors des 15 premiers jours » pour répondre aux urgences qui abîment la vie et la confiance du peuple français. Sur la scène de la Maison de la Chimie à Paris, tous les signataires sont là. Les responsables des partis se succèdent au micro. Vient le tour d'Aurore Laluc, de Place Publique.
Bonjour à toutes et à tous. On l'a fait parce qu'il le fallait. Je suis une économiste qui a toujours lutté contre le fait de dire qu'il n'y avait pas d'alternative, mais il n'y a pas d'alternative. La seule alternative qu'il y ait lors du prochain vote, j'allais dire le 9 juin, je suis déformée par la campagne des européennes, c'est nous. Il n'y a pas d'autre alternative pour faire face au Rassemblement national.
Même si l'enthousiasme n'est pas clairement affiché, ces législatives anticipées ou en tout cas réussi en quelques jours à faire reculer, en tout cas semble-t-il, les rancœurs accumulées à gauche. Bonjour Elsa Orange.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Bulletin quotidien, vous suivez la gauche depuis plus de 25 ans maintenant. Dans l'histoire récente de la gauche, réussir une telle alliance en si peu de temps, C'est historique, non ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait inédit, d'autant que on a vu, alors même si aux dernières élections législatives, la gauche avait réussi à s'entendre autour de la bannière de la NUPES, qui était quand même plus une alliance électorale qui certes a été très efficace, mais qui a vite montré ses limites. Donc c'est vrai que là, ça faisait 2 ans qu'on les voyait, s'écharper de plus en plus. La campagne des élections européennes a été marquée par des tensions croissantes et surtout une béance de plus en plus grande entre les positions des uns et des autres, donc notamment depuis les attaques du 7 octobre en Israël. Et si vous voulez, là, effectivement, c'était, je pense, plus qu'improbable de parvenir à s'entendre aussi rapidement. Je crois qu'Emmanuel Macron n'avait pas du tout misé sur ça. Il pensait prendre tout le monde de vitesse en annonçant des élections législatives aussi rapidement. Et je pense que, paradoxalement, ça a eu l'effet contraire, c'est-à-dire que finalement, les partis de gauche pris de court et puis pris dans l'urgence de faire barrage au Front National, finalement, ils n'ont même pas eu le temps de recommencer à s'écharper. Et là, si vous voulez, pour eux, le plus important, c'est de s'unir, parce qu'ils savent très bien que pour avoir la moindre chance de l'emporter aux prochaines élections législatives, il n'y a pas le choix, il faut être unis. Donc, c'est relativement inattendu. Et assez inédit, oui.
Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, il y a quelques années, avait parlé de deux gauches irréconciliables. Hier, sur BFM TV, il a dit ça.
La gauche, est dans ce mouvement, mais
donc ça veut dire que si jamais...
Elle ne gagnera pas. Et donc le vrai sujet, c'est comment empêcher le Rassemblement national d'avoir la majorité, et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ?
La gauche ne gagnera pas. Pourquoi dit-il cela ? En fait.
Il dit cela parce que je pense que lui, il reste toujours sur la même idée de se dire qu'au fond, les désaccords idéologiques qui existent à gauche et qui sont réels et depuis des années n'ont toujours pas été purgés. Et effectivement, si en fait, dès qu'on commence à creuser un peu, on s'aperçoit que rien n'est réglé. Et donc là, une fois de plus, exactement comme pour l'accord de la NUPES, là aujourd'hui, tous les partis de gauche se mettent ensemble, annoncent un grand front populaire avec des mesures, etc. Mais en fait, dès qu'on creuse un petit peu, en fait, les sujets de divergence ne sont absolument pas réglés. Là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sous l'urgence, ils ont mis sous le boisseau un peu toutes leurs divergences parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils se disent le plus important pour nous maintenant, c'est de se mettre ensemble, de faire une union aux législatives. Et après, on verra bien, entre guillemets, il sera toujours temps de s'engueuler. Donc je pense que là, au fond, Manuel Valls a raison dans le sens où finalement, idéologiquement, ils ne sont pas plus d'accord qu'ils l'étaient hier. En revanche, là où il a tort, c'est que politiquement, aujourd'hui, les circonstances plaident, tout plaide pour l'union. Et là où ils ont su, être à la hauteur de l'événement, l'ensemble des responsables des partis de gauche depuis 3-4 jours, c'est qu'ils ont réussi à passer au-dessus de ça, à dire, la situation est trop grave, donc on s'unit, on passe au-dessus. Et en fait, ils savent qu'ils n'ont pas le choix quelque part.
Et quoi ? Et on verra après ? On verra après ce qui se passe ?
Et on verra après. Alors typiquement, par exemple, là, ce matin, la conférence de presse qu'il y a eu pour annoncer, donc ils ont annoncé leur accord très médiatiquement avec la grande photo sur le perron de tout le monde. Mais quand on leur demande, et les candidats, alors les circonscriptions, qui va être candidat dans quelle circonscription, en fait, là, l'accord n'est pas encore tout à fait bouclé. Et ils nous disent, il sera bien temps de voir.
Ouais, j'allais y venir ce vendredi midi, donc justement après cette superbe photo, Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, dit ceci, que Jean-Luc Mélenchon est tout à fait capable d'être Premier ministre et candidat aux législatives. Quelle que soit la décision qui est la sienne, je serai d'accord avec. Voilà ce qu'il dit. Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas un point de blocage ?
Eh bien si, c'est bien le problème. Et c'est bien pour ça que, si vous voulez, l'ensemble des partis de gauche là, ne veulent pas dire ouvertement que potentiellement, ce serait Jean-Luc Mélenchon, finalement, le leader de cette nouvelle gauche. Parce qu'ils savent très bien que s'ils disent ça, c'en est fini, en quelque sorte, de l'Union. Il y a un effet repoussoir sur toute une partie de la gauche qui, par exemple, là, a voté pour Raphaël Glucksmann aux européennes, en sachant très bien, justement, parce que lui s'était démarqué de LFI, avait eu des positions très claires. Et ça, ils le savent très bien les uns les autres. Donc, en fait, aujourd'hui, on assiste un peu à un jeu de rôle où ils nous disent oui, on est tout à fait d'accord, mais quand on leur demande typiquement qui sera le Premier ministre, alors là, la réponse, moi j'ai posé la question tout à l'heure à Fabien Roussel, il dit oui, mais on verra bien après les élections, de toute façon, il faut attendre le résultat des urnes, ce qui n'est pas faux non plus. Et donc ce sera, alors potentiellement, c'est ce qu'avait dit Olivier Faure et ce à quoi s'est rangé Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire ce sera le plus gros groupe, enfin numériquement, le groupe le plus important. Donc, ça logiquement, Il y a toutes les chances que ce groupe-là soit le prochain groupe de la France insoumise, étant donné qu'ils ont eu mathématiquement le plus grand nombre de circonscriptions dans l'accord qui a été signé. C'est eux qui en ont le plus. C'est pas pour ça qu'ils vont en gagner plus.
Raphaël Glucksmann avait parlé de Laurent Berger, ancien de la CFDT, à la tête de l'État si jamais il arrivait un consensus. On ne l'a pas vu encore s'exprimer.
On ne l'a pas vu s'exprimer. Il a absolument pas saisi cette perche. Au sein de la gauche, l'idée n'a pas non plus suscité un enthousiasme débordant. Enfin, c'est sans doute une très bonne idée, mais on n'a pas vu de ralliement à cette idée. Entre-temps, il y a eu d'autres personnes qui ont fait acte de candidature. Il y a notamment François Ruffin, qui a dit qu'il se sentait capable également, de la même façon que Jean-Luc Mélenchon. Clémentine Autain a dit aussi que si jamais on lui proposait et que tout le monde était d'accord, eh ben, elle serait d'accord aussi. Il y a Valérie Rabault aussi à gauche, qui est l'ancienne présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, qui a fait acte de candidature hier en disant que ce serait bien que ce soit une femme quand même. Et puis, on n'est pas à l'abri d'autres candidatures entre-temps. Bon, pour l'instant, si j'ai bien compris, ils ont décidé qu'il était urgent d'attendre et qu'il serait bien le temps, on aurait bien le temps de se décider une fois que les élections seront passées. Encore faudrait-il déjà qu'ils soient majoritaires. Donc, je pense que l'urgence pour l'instant pour eux, c'est ça, c'est de s'unir, de faire barrage dans les circonscriptions au Rassemblement national le plus possible. Et puis après, advienne que pourra, il sera bien temps de choisir quelqu'un. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon a compris aussi que son intérêt, c'était de pas trop se mettre en avant, contrairement à la dernière fois, où finalement, au sein de la NUPES...
C'est vrai que pour l'instant, il reste discret.
Il reste discret, je pense qu'il a mis beaucoup d'eau dans son vin, il a pris vraiment très fort sur lui, parce que c'est pas son caractère, il reste discret, il dit qu'il s'imposera pas, qu'on décidera, mais dans son fort intérieur, il pense le groupe LFI va être majoritaire, et va me désigner, et puis ce sera le fait accompli, enfin ce sera la démocratie, on sera les plus nombreux, et donc ce sera moi. Mais il a très bien compris qu'il valait mieux pas le dire.
Voilà, on reste unis, en tout cas jusqu'au 7 juillet, le 8 juillet, on verra bien ce qui se passera.
Voilà, jusqu'au premier tour ou entre les deux tours, parce que c'est pareil, on va être confronté entre les deux tours, il y aura sûrement des situations un petit peu difficiles à régler, et c'est là que ça va se jouer. Est-ce que, par exemple, dans telle circonscription, tout le monde se désiste en faveur du candidat LFI qui arrivait en tête? Est-ce que les socialistes appellent à voter LFI face, par exemple, au RN? Alors là, ils ont dit qu'ils le feraient. Enfin, dans les mots, pour l'instant, ils disent qu'il y aurait un désistement républicain pour le candidat arrivé en tête. Mais sur le terrain, il ne faut pas oublier que les élections législatives, c'est 577 petites élections dans chaque circonscription. Et donc, sur le terrain, les gens sur place... C'est pas sûr. Est-ce que certains vont pas dire, eh ben non, mais dans ce cas-là, si c'est un LFI, eh bien moi je me présente en dissident. Et après, est-ce qu'ils accepteront de se désister pour l'un ou l'autre? C'est pas sûr du tout. Donc pour l'instant, l'accord est là. Je pense qu'ils ont très bien compris que c'était très important. Donc chacun a fait taire ses divisions. Mais la grande question, c'est voilà, est-ce qu'ils vont réussir à tenir cette si belle entente jusqu'au 8 juillet?
Bah, je vous remercie beaucoup, Elsa Orange, journaliste au Bulletin quotidien, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Et merci à Zoé Quenebrock pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Le titre à la une, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur toutes les plateformes de podcast. À très vite.